Climat, l'échauffement des esprits, Benoît Rito.
Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver. Désolé pour ce petit retard à l'allumage. Bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série Climat, l'échauffement des esprits, où nous regardons ensemble la question du réchauffement climatique, son origine humaine et pour laquelle nous apportons un regard critique. Ce soir, j'ai la grande chance, l'honneur et l'amitié de recevoir François Gervais. François, bonsoir.
Bonsoir.
On va se tutoyer. Tu m'as posé la question tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'on se tutoie? Est-ce qu'on se voit? On va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis déjà un certain temps.
Tout à fait.
Donc tu es professeur émérite à l'université de Tours, tu es médaillé de bronze au CNRS, c'est bien ça, et tu es spécialiste en spectroscopie, c'est ça?
Spectroscopie infrarouge.
Infrarouge, oui. Pour être tout à fait précis. Tu as publié en 2011 un livre qui s'appelle L'innocence du carbone.
2013,
décidément.
Bah, t'étais pas loin.
Désolé, c'était chez Albin Michel.
Oui.
Ça t'a valu un certain nombre de réactions médiatiques, une invitation à RTL, tu as fait C'est dans l'air. Tu as été évidemment critiqué par les médias dominants, notamment Le Monde, le quotidien dans lequel tu as pu répondre néanmoins. Et donc tu es une des figures principales de ce que nous appelons aujourd'hui, nous, les climato-réalistes.
Tout à fait.
Donc tu es membre du comité scientifique des climato-réalistes, dont je suis le président, on va dire les choses tout à fait clairement pour que le full disclaimer nécessaire au début de l'émission.
Et tu le fais très bien.
Et ce soir, j'ai pensé qu'ensemble, on pourrait en quelque sorte se faire l'avocat du diable, c'est-à-dire défendre le grand méchant loup, le Satan des temps modernes, le gaz satanique, qu'est le gaz carbonique, le CO2, le vilain CO2 dont on dit tant de mal. Il est censé faire monter les océans, il est censé faire fondre la banquise, il est censé réchauffer la planète, il est censé tuer les ours polaires, il est censé créer tout ce qui va mal sur la Terre. Et en réalité, c'est le gaz de la vie, c'est le gaz qui n'a rien fait de mal. Et il était important que, je pense, on se donne la peine de défendre cette petite molécule qui est à ce point indispensable à la vie et dont on dit malheureusement tant de mal aujourd'hui.
Sans bien comprendre exactement ce qu'on dit. Car effectivement, le taux, la concentration de gaz carbonique dans l'air a augmenté. Parce qu'on brûle du pétrole, du charbon, du gaz naturel, c'est vrai. Mais elle a augmenté de combien ? De 0,03% à 0,04% en un siècle. Alors, est-ce que cette augmentation de 0,01% peut être dangereuse? Tu as tout à fait raison d'abord de rappeler que c'est le gaz de la vie. Toute la nature utilise ou rejette ce gaz carbonique pour vivre. Nous, les humains, lorsque nous expirons, dans notre haleine, il y a 30 fois plus de gaz carbonique que dans l'air. Donc effectivement, et nous, les humains et les animaux, enfin, pour notre vie, nous inspirons de l'oxygène. Et nous expirons de la vapeur d'eau et du gaz carbonique. D'ailleurs, il est important de souligner que parmi ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau qui est de très loin le principal. Parce qu'elle est simplement, en moyenne, elle peut être jusqu'à 100 fois plus concentrée dans l'air que le gaz carbonique.
Alors on peut rappeler, pour fixer les idées, parce que nous, on connaît bien le sujet, mais pour que tous les auditeurs soient bien dans le coup, que l'idée générale d'un réchauffement climatique d'origine humaine est motivée par la théorie selon laquelle un certain nombre de gaz que nous émettons sont des gaz dits à effet de serre, qui ont un pouvoir réchauffant. Et le principal coupable proclamé de cet effet de serre accru par les activités humaines, c'est le gaz carbonique. Et ce que tu dis, c'est que d'une façon générale, ce qui crée l'effet de serre ou le phénomène qu'on appelle l'effet de serre aujourd'hui dans l'atmosphère, c'est d'abord la vapeur d'eau.
Et effectivement, de très loin. Oui.
De très loin. Hein, oui. Il est majoritaire à lui tout seul.
Et heureusement, parce que s'il n'y avait pas ce gaz dit à effet de serre dans l'atmosphère, la vapeur d'eau, il ferait 30 degrés de moins sur toute la planète et ce serait parfaitement invivable.
Alors ça, c'est ce qu'on nous dit souvent, c'est « Ah oui, c'est très bien, il y a l'effet de serre, ça nous sauve, mais aujourd'hui, on en a trop. » Alors, c'est aussi ça qu'on va essayer de voir ce soir, c'est est-ce qu'effectivement, le surplus de gaz carbonique que nous émettons et éventuellement de vapeur d'eau, est-ce que ça crée trop d'effet de serre? Est-ce que c'est ça qui réchauffe la planète? Alors, dans ce qu'on a dit, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord donc, cette question-là, il y a la question du CO2 en tant que gaz de la vie. Et je voudrais d'abord qu'on revienne là-dessus. C'est-à-dire que comment, à ton avis, tu as regardé, on va y venir, et tu vas nous en parler sûrement, le cycle de la photosynthèse, l'accroissement du cycle de la photosynthèse depuis qu'on émet du gaz à effet de serre, du gaz carbonique, pardon. Comment ça se fait, quand on est scientifique, qu'on puisse aussi facilement décider qu'un gaz comme le gaz carbonique, qui est aussi indispensable à la vie, aussi favorable à la biosphère que le gaz carbonique, a pu, en si peu de temps, être désigné comme un polluant?
On a mis la charrue devant les bœufs. On a décrété, il y a 25 ans, pour des raisons politiques sur lesquelles je ne reviendrai pas, je vais me cantonner dans ma position de scientifique, on a décrété que... Et depuis, on a alimenté un rouleau compresseur qui a fini par, à force, faire croire que, alors que la science, de plus en plus maintenant, dit le contraire. En particulier, il y a 25 ans, on n'avait pas tout le réseau de satellites qu'on a aujourd'hui. Les satellites, aujourd'hui, montrent que l'augmentation... Donc de 0,03% à 0,04%, on parle bien de celle-là, a augmenté la végétation sur Terre. Les chercheurs qui l'ont publié dans la prestigieuse revue Nature disent de l'équivalent d'un sixième continent vert de 18 millions de kilomètres carrés, 33 fois la superficie de la France, c'est quand même pas rien. Donc ça, c'est un fait. Et on le voit très bien aussi, c'est ce que j'ai publié dans Earth Science Reviews, chaque année, le taux de CO2 dans l'air diminue. Et il remonte à l'automne et en hiver. Et puis au printemps et en été, il rediminue. C'est ce qu'on appelle l'oscillation saisonnière, qu'on mesure très bien par spectroscopie infrarouge. Ça, c'est admis par tout le monde. Eh bien, quand on regarde l'amplitude de cette oscillation, mesurée par exemple en Californie à La Jolla, on s'aperçoit qu'elle a augmenté, l'amplitude a augmenté plus vite que le taux de CO2 lui-même.
Tu veux dire, pour clarifier les choses, pour ceux qui n'ont pas vu le graphique correspondant, ouais. Il y a une hausse globale qui est faite de petites oscillations.
Et l'amplitude de ces
oscillations. Mais ces oscillations sont de plus en plus grandes, voilà. Et tout en accompagnant un mouvement ascendant.
Mais elles augmentent plus vite que le taux de CO2 lui-même. Autrement dit, ça veut dire que la végétation manquait de gaz carbonique et que la végétation se jette là-dessus.
Est-ce que c'est étonnant? Est-ce qu'on peut rappeler, est-ce que tu peux donner en quelques mots ce qu'on sait, toi et moi, mais qui est important de rappeler? Pourquoi est-ce que la végétation a besoin de gaz carbonique?
Dans certaines périodes de l'histoire de la Terre, le taux de CO2 dans l'atmosphère était de 20 à 30 fois supérieur. C'était des époques dans lesquelles la végétation était luxuriante. Et mine de rien, c'est l'époque où aussi toute cette végétation a été pour partie enfouie dans la Terre et sont devenues ce qu'on appelle maintenant les combustibles fossiles. Parce que la végétation était luxuriante, parce qu'il y avait un taux de CO2 dans l'atmosphère, un taux de gaz carbonique dans l'atmosphère, beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Donc actuellement, la végétation, en fait, est en manque de CO2.
Alors, parce que la végétation consomme du CO2, c'est le cycle de la photosynthèse.
Elle en a besoin.
Elle en a
c'est
un besoin
indispensable et irremplaçable. Il n'y a pas d'autre solution pour la végétation. Et alors, ce qui est quand même invraisemblable, c'est ce que me disait encore une de mes amies institutrices, mais c'est ce qu'on apprend à l'école. Que la photosynthèse, s'il n'y a pas le gaz carbonique, les plantes meurent. Non seulement c'est le gaz de la vie, mais c'est absolument indispensable et irremplaçable, j'insiste. En dessous d'un certain taux qui est guère plus inférieur à celui qui prévalait au début du XXe siècle, les plantes meurent si on était en dessous.
Donc tu dis qu'en dessous de 0,03% de gaz carbonique, on
ça
aurait
se passe pas
un,
bien.
On aurait
mais
un
en
vrai
dessous
problème.
De 0,015, ça c'est sûr que les plantes meurent.
Donc on est guère au-dessus, et du coup, là, les plantes en profitent.
Bien
donc,
sûr.
Tu rappelais 18 millions de kilomètres carrés en plus, c'est équivalent de deux fois le Sahara. Ouais. Et donc, on a gagné en biosphère, au moins en biosphère végétale. Donc, c'est positif.
Et le deuxième aspect très positif, c'est qu'en plus de cela, on a augmenté le rendement des récoltes. Donc, la population de la planète augmente. On va nourrir tout le monde, me semble-t-il. Enfin, je crois que personne n'en disconvient. Et là-dessus, on a donc ce gaz carbonique qui est finalement un fertilisant gratuit. Gratuit. Ça a été chiffré par un spécialiste américain, Craig Itso, qui montre que chiffré, ça représente l'équivalent depuis 1961, je crois me souvenir, de l'équivalent de 3 000 milliards d'euros. Ce supplément gratuit.
On sait aussi effectivement que dans les serres de jardin, hein, on utilise beaucoup le gaz carbonique. On utilise en fait la combustion du chauffage pour mettre le gaz carbonique dans les serres de jardin, mmh, et que ça en augmente les rendements.
Tout à fait.
Donc je reviens à une question. Est-ce que tu as une idée de comment il se fait que personne n'ait voulu défendre le gaz carbonique, qu'il se soit retrouvé finalement seul au banc des accusés, qu'il n'ait pas eu un avocat pour dire « Attendez, c'est grâce au gaz carbonique, enfin, en partie grâce à l'augmentation de gaz carbonique dans l'atmosphère, que les rendements agricoles sont meilleurs, que la biosphère végétale prospère, on devrait être plutôt content. Comment c'est possible qu'on dise le contraire et qu'à chaque fois qu'on prend notre voiture et qu'on émet du CO2, on doit se sentir coupable ?»
Je vais rester dans mon rôle de physicien et non pas rentrer sur le terrain politique, mais en tant que citoyen, je trouve ça absurde, oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Alors, on a dit tout à l'heure que tu es spécialiste de spectroscopie infrarouge. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et en quoi c'est lié à ces questions climatiques, à la question de l'effet de serre et du gaz carbonique ?
L'origine du phénomène qu'on appelle l'effet de serre, ce sont les vibrations. Dans la molécule de CO2, il y a un atome de carbone, deux atomes d'oxygène. Tout le temps, ces atomes bougent à des fréquences extrêmement élevées, beaucoup plus élevées que celles que nous utilisons ici pour communiquer, des fréquences qui se mesurent en térahertz. Donc c'est gigantesque, des fréquences alors, extrêmement élevées.
Alors, et téra, c'est... C'est des trillions.
Giga, c'est 10 puissance 9. Ouais. Tera, c'est 10 puissance 12.
12, d'accord. Voilà. Donc ce sont des billions. Des billions. Voilà. Un billion d'oscillations voilà, par seconde, c'est ça?
Voilà. Donc ce sont ces vibrations qui absorbent le rayonnement thermique émis par la Terre. La Terre reçoit du rayonnement thermique du Soleil, et heureusement.
C'est la chaleur qu'envoie le Soleil sur la Terre,
voilà,
c'est ça?
Mais alors, cette chaleur, on sait la décomposer en fréquences. Et ce qu'on appelle un spectre, c'est une décomposition en fréquences.
Si tu veux dire que la chaleur, c'est une superposition
de petits éléments qui vont se compter, mm-hmm, à un certain nombre de fréquences, exactement comme les fréquences radio que nous utilisons aujourd'hui. C'est la suite, simplement, c'est à des fréquences beaucoup plus élevées. Et donc, cette molécule de gaz carbonique, elle absorbe qu'à deux fréquences. C'est précisément 20 terahertz et 70 terahertz. Et uniquement là. La vapeur d'eau, elle, qui est une molécule plus compliquée, absorbe à plein d'autres endroits dans ce qu'on va appeler le spectre infrarouge des fréquences d'absorption du rayonnement thermique de la Terre.
C'est un petit peu curieux parce que H2O, ça n'a pas l'air plus compliqué que CO2. Est-ce qu'on a une idée?
Ah oui, non, mais c'est parce que la molécule d'eau forme un V. Donc il y a beaucoup plus de, par symétrie, de possibilités que la molécule de CO2 qui est linéaire. Donc,
et simplement, la forme de la molécule permet de différencier, de permettre à la molécule d'eau d'être beaucoup plus vaste dans sa capacité à absorber la chaleur que l'est le gaz carbonique. Ouais.
Ça a été très bien montré par Hertzberg, qui a eu le prix Nobel il y a plus de 50 ans, pour justement les symétries des molécules et comment ça va permettre de prévoir là où elles vont absorber le rayonnement thermique. car c'est vrai, le CO2 absorbe du rayonnement thermique.
Donc bon, on peut faire une sorte de bilan d'étape. Le soleil envoie de la chaleur sur la Terre sous forme à des fréquences différentes. C'est plutôt de l'énergie sous forme d'énergie.
C'est plutôt dans la partie visible du spectre. C'est pas dans la partie infrarouge. Mm-hmm. Le soleil, c'est surtout dans la partie visible.
Et cette chaleur-là est réémise par la Terre.
Oui.
Et elle est arrêtée un peu comme une sorte de couverture, de manteau, par les différentes molécules qui sont dans l'atmosphère.
Oui, je dirais pas manteau, parce que c'est une passoire, en fait. Puisque justement, ça absorbe sélectivement à certaines fréquences. Alors, la vapeur d'eau couvre beaucoup plus large que le gaz carbonique. Le gaz carbonique, c'est pas un manteau, vu qu'il absorbe seulement à deux fréquences. Ailleurs, c'est partout, ça laisse passer.
D'accord.
Non, c'est important pour la suite.
Mm-hmm. Alors, messieurs, je vais vous couper la parole une seconde. Il y a une question, vous en avez parlé un petit peu, une question de Camille Pelletan qui demande s'il y a une différence, enfin qui dit qu'il y a une différence essentielle entre le CO2 et H2O, vous en avez parlé. Le second s'évapore et se condense en pression atmosphérique de surface. Or, ces réactions physiques sont respectivement fortement endo- et exothermiques. C'est une question ? Oui, non ?
Alors, effectivement, la chaleur absorbée ne va pas rester... La molécule spontanément se débarrasse de cette chaleur. On dit qu'elle dissipe cette chaleur. La question, est-ce qu'elle va la dissiper en réémettant la chaleur ? Ou est-ce que par les collisions avec toutes les molécules voisines, surtout au niveau du sol, là où la pression atmosphérique est beaucoup plus élevée, là, effectivement, ce sont les collisions qui dominent. Et donc, elles vont échauffer les voisines.
Il y a deux façons différentes de se débarrasser de la chaleur qu'elles ont absorbée, ces molécules. Soit elles les réémettent comme elles les ont reçues, d'une certaine façon, soit elles les transmettent en se cognant les unes contre les autres et en gagnant de la vitesse.
Exactement.
C'est bien ça.
Exactement. D'accord. Et ça, c'est très important pour la suite, parce que on s'aperçoit que quand on regarde justement le spectre infrarouge des deux fameuses fréquences du gaz carbonique qui absorbent, on s'aperçoit que l'absorption est considérable. Je veux dire, le gaz carbonique, il fait tout ce qu'il peut, mais je ne vois pas très bien ce qu'il pourrait faire de plus, parce qu'il absorbe déjà au niveau du sol, c'est parfaitement clair. Donc, c'est ce qui a incité des scientifiques américains, même si son nom est japonais, M. Tsukuryo Manabe, à dire, oui, mais, ok, c'est saturé au niveau du sol.
Alors, on va quand même redire ce que c'est que saturé. Si je comprends bien le raisonnement, bon, je le connais un peu, mais tu dis que même il y a toute la chaleur qui est apportée aux fréquences auxquelles le CO2 est capable de faire quelque chose est déjà
complètement
utilisée.
Absorbée.
Alors, ça, bon, c'est assez contesté, on va le dire, y compris chez les
climatologistes. Mais non, c'est pas contesté, puisque Tsukuryo Manabe a justement, dès 1964, proposé un modèle qui est maintenant repris dans tous les modèles du GIEC. Donc ça, c'est pas contesté, justement. Parce qu'il avait parfaitement conscience que c'était saturé. Donc il fallait trouver un mécanisme pour dissiper cette chaleur autre.
Manabe qui, en passant, pour tous ceux qui prennent le RER Gare du Nord, a ces équations qui sont écrites un peu partout sur la voie où on prend le RER. C'était à l'occasion de la COP21 où un artiste, on va dire ça comme ça, un artiste avait reproduit toutes les équations du système de Manabe. Donc il m'arrive régulièrement de passer Gare du Nord et donc de devoir subir ces équations-là, qui d'ailleurs sont extrêmement mal reproduites. Et on voit bien que celui qui a fait ça ne comprend pas ce qu'il fait. Je le dis en passant, mais
c'est juste pour dire que ce que je dis là, à l'onction du GIEC, le groupe intergouvernemental.
Le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, qui est le principal organisme, en l'occurrence onusien, qui défend l'idée que la Terre se réchaufferait sous l'effet des émissions humaines de gaz carbonique.
Donc
tu dis, Manabe.
Les modèles qui prévoient l'évolution du climat selon le GIEC, enfin, tous les modèles selon le GIEC, attention, parce qu'il y en a d'autres dont on pourra parler tout à l'heure, qui eux ne sont pas d'accord. Il y en a même beaucoup qui ne sont pas d'accord. Mais pour l'instant, si on reprend ce que dit le GIEC, c'est de dire donc cette chaleur qui est récupérée et qui est dissipée par collision avec les molécules va monter par ce qu'on appelle la convection. C'est le vent d'une certaine façon. Par monter par convection jusqu'à haute altitude. Et là, comme la pression atmosphérique est plus faible, les molécules de gaz carbonique vont pouvoir... Donc, il y aura moins de collisions, puisque la pression est plus faible.
La pression, c'est-à-dire qu'il y en a moins, il y a moins de molécules par unité de volume.
À haute altitude, voilà, il y a moins de, il y a moins de pression. Et donc, les molécules vont avoir du mal à dissiper par collision, puisqu'il y a moins de, il y a moins de voisins.
Il y a moins de moyens voilà. d'entrer en collision.
Et donc, à ce moment-là, elles vont pouvoir émettre.
Le seul moyen pour dissiper leur chaleur, ce ne sera plus les collisions, ce sera l'émission, donc la réémission de la chaleur qu'elles ont captée plutôt au moment de la réflexion de la chaleur. Enfin, de la,
alors ça, c'est donc le modèle sur lequel sont basés les modèles de climat. Donc, voilà ce que dit, en gros, le GIEC.
Et qui est admis par l'ensemble de la climatologie, disons, mainstream aujourd'hui.
Oui, mais alors justement, de moins en moins. Car une autre façon d'approcher la question, c'est de dire de combien se réchaufferait la Terre si on doublait le taux de gaz carbonique dans l'air. Donc on était à 0,03%, on est à 0,04% aujourd'hui. Je me plais à le répéter parce qu'on entend des chiffres tellement fantaisistes à ce sujet que c'est quand même important de le rappeler.
On a l'habitude on le présente rarement sous forme de pourcentage comme ça. On dit 300 ou 400 parties par million.
Ce qui revient exactement au même.
Revient exactement au même, mais qui donne, qui, comme on connaît moins et qu'on est moins habitué à cette unité-là, hein, 300 ppm, on dit, donc on sait à peine à quoi ça correspond. Et donc, on passe de 300 à 400, ça a l'air beaucoup. Quand on dit qu'on passe de 0,03% à 0,04%, c'est un peu là qu'on comprend que le gaz carbonique, il est à l'état de trace dans l'atmosphère et il l'est resté et il le restera quand bien même nous brûlerions tout le pétrole qui est disponible.
Mais ce qui ne l'empêche pas d'avoir un rôle extrêmement important et bénéfique sur la végétation et les récoltes. Hein,
tout à fait.
Même s'il est en faible proportion. Alors, la suite, donc une façon peut-être moins ardue que regarder les spectres infrarouges, mais on y reviendra quand même, c'est essentiel. Et comme tu l'as souligné, finalement, c'est mon métier. Donc, une façon moins ardue, c'est de parler de ce qu'on appelle la sensibilité climatique, de dire de combien se réchaufferait la Terre si on doublait le taux de gaz carbonique dans l'air.
L'idée étant que s'il y a plus de gaz carbonique, il y aura plus d'absorption de la chaleur émise par la Terre et donc augmentation de la température, parce que la température est liée au nombre de collisions entre les molécules.
Si le phénomène n'est pas saturé.
Si le phénomène n'est pas saturé.
Et on va y revenir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, à ce moment-là, le GIEC donne une fourchette, parce qu'il y a une incertitude qui reste considérable. Depuis le premier rapport du GIEC jusqu'au deuxième, troisième, quatrième, on arrive au cinquième, il y en a tous les sept ans. Eh bien, dans le septième rapport, il donne... cinquième rapport, il donne une fourchette. La Terre se réchaufferait entre 1,5 et 4,5 degrés. C'est quand même une incertitude considérable.
C'est énorme. L'incertitude est tout à fait colossale.
On dit qu'on veut limiter à 2 degrés. Mais si on a une incertitude, 4,5 moins 1,5, ça fait 3 degrés. On a une incertitude de 3 degrés et on dit qu'on va limiter à 2 degrés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. Bon. Mais à la limite, peu importe. Quels sont, donc, j'ai compilé, à la suite de d'autres, bien sûr, les valeurs de sensibilité climatique publiées par les climatologues dans les revues internationales, les comités de lecture, puisque c'est comme ça que fonctionne la science. En reportant les valeurs de sensibilité climatique en fonction de l'année de publication.
C'est-à-dire l'état de la science sur le réchauffement
officiel
qu'on risque,
oui, voilà.
Selon les années et les
la science publiée dans les journaux scientifiques qui sont peer-reviewés, comme on dit, donc qui sont regardés par des relecteurs anonymes qui, en général, ne font pas de cadeaux et qui, bon, qu'est-ce qui va être publié? Donc, si on reporte en fonction de l'année de publication et qu'on regarde la tendance, la sensibilité climatique perd 10% par an. Autrement dit, dans 10 ans, on n'en parlera plus. Enfin, peut-être.
Donc, pour expliquer le propos, tu dis que d'année en année, on est en train de se rendre compte que le pouvoir réchauffant du gaz carbonique
a été peut-être exagéré.
A été probablement nettement exagéré et que tous les ans, on se dit, bah, finalement, il était un peu moins fort.
Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Hein,
et que la diminution de notre inquiétude est de l'ordre de 10% par an depuis...
Enfin, pour les scientifiques, pas pour les politiques, mais pour les scientifiques, c'est le cas.
D'accord. Alors, on est où maintenant de cette sensibilité climatique?
Alors, la valeur basse... Alors, il y a deux façons de définir la sensibilité climatique. C'est au moment où il y a un doublement du taux de gaz carbonique dans l'air, ou une fois l'équilibre atteint, on va dire 1000 ans plus tard. Parce que ça va dépendre des océans, des courants marins, ça prend des temps très très longs. Bon, alors cette deuxième, évidemment, elle est intéressante, mais si on prend au moment où, c'est la sensibilité climatique transitoire, le GIEC dit, dans son dernier rapport, c'est entre 1 degré et 2,5 degrés. Actuellement...
Donc, dernier rapport publié en 2014, c'est ça?
C'est ça. Le résumé 2013-2014, c'est celui-là. Oui. Le cinquième rapport, donc. Et si c'est un degré, il n'y a pas de problème. Si c'est la valeur basse de ce que dit le GIEC. Pourquoi? Parce que l'augmentation du taux de gaz carbonique dans l'air chaque année est de, en ce moment, 0,5%. C'est à peu près plat. Alors, bon, il y a des exceptions. Quand il y a un pic El Niño, bizarrement, on voit que le CO2 augmente et suit le pic El Niño. Bon, on ne va peut-être pas rentrer là-dedans.
On pourra parler des El Niño après.
Oui. L'observation montre que ça suit effectivement la température avec un certain retard. Mais on va prendre la valeur moyenne.
Donc 0,5% d'augmentation chaque année.
Autrement dit... 2 ppm.
Depuis les années 50 ou 60, depuis qu'on a commencé à mesurer avec peut-être une petite...
Au début, c'était moins.
Oui, ça a un petit peu augmenté.
Mais depuis une vingtaine d'années, c'est autour de 2 ppm. 2 parties par million, 0,0002%. Voilà. Alors, si on prend cette augmentation donc relative de 0,5% par an, par rapport au taux actuel, on est à 400 ppm. Si on prend 2 ppm, ça fait donc 0,5% par an
d'augmentation.
Multiplié par la sensibilité climatique, s'il y avait un doublement, mais attention, en arrivant en 2100, ça va faire plus 0,4 degrés en prenant la valeur basse du GIEC.
D'accord, donc la valeur basse du GIEC, si, on continue, degré, si l'augmentation du gaz carbonique continue comme à présent, voilà, on va gagner 0,4 degrés
en 2100
selon la fourchette basse.
Voilà.
0,4 degrés, on peut considérer que c'est rien, qu'on est dans les...
Est-ce que ça justifie de dépenser 90 000 milliards de dollars, comme le dit la Banque mondiale?
Probablement c'est ça la question. Si on compte, c'est-à-dire que dans une seule journée, les écarts de température peuvent atteindre 10 voire 20 degrés sans problème.
J'ai regardé en Touraine par une belle journée de printemps, on gagne 0,4 degrés en un quart d'heure.
Voilà, pour fixer
les idées. J'ai juste regardé avec mon thermomètre, c'est tout simple.
Pour fixer les idées, c'est un non-sujet dans ce cas-là. Et alors. Pour la fourchette haute du GIEC, les 2,5 degrés de sensibilité climatique.
Évidemment, ça ferait plus.
Ça ferait combien?
Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que les valeurs publiées en fonction de l'année de publication, donc les plus récentes, sont en dessous, en moyenne, de la fourchette basse du GIEC. Parce que ça, faut pas oublier que le rapport du GIEC, il est basé sur les publications avant 2012. Et de 2012 à 2017, dans la littérature scientifique, les valeurs ont baissé. Et là, maintenant, on est plutôt autour de 0,6 degrés. Et donc, ça ne ferait même pas 0,4 degrés, ça ferait 0,2. Mais on va pas chipoter, parce que là, on est sur des chiffres. Franchement, j'ai beau me forcer, mais j'arrive pas à voir un drame. D'autant plus qu'il y a l'effet bénéfique dont on a... qu'on a évoqué tout à l'heure, qui l'emporte largement. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Et là, je base vraiment sur des choses que tout à chacun peut... Si les médias faisaient un travail d'investigation, ils verraient qu'il y a 2417 publications au dernier pointage qui insistent sur le fait que, oui, il y a des changements de température, mais que la variabilité naturelle est très importante. Il y a les effets du soleil, il y a les effets des cycles océaniques, ce qu'on appelle l'oscillation atlantique multidécennale, qui est un cycle de 60 ans, toutes ces choses-là jouent et font que la température effectivement change. Bien sûr. faut pas oublier quand même que un des plus actifs pour dire « Oh là là, la Terre va griller, on va tous... » Bon, Stephen Schneider a publié.
Donc c'est un scientifique américain.
Absolument, très connu.
Il a été, je crois, un des conseillers d'Obama, si je me souviens bien.
Il a été expert du GIEC, enfin, il a fait toute la... Mais il ne faut pas oublier qu'entre 1945 et 1975, la température de la Terre baissait. Et quand on lit ses publications dans la prestigieuse revue Science, il disait à ce moment-là, ah ben oui, la température de la Terre a baissé de 0,5 degré dans l'hémisphère sud, nord, pardon, a baissé de 0,5 degré dans l'hémisphère nord. Donc on était à ce moment-là sur une tendance décroissante qu'il expliquait par l'effet des aérosols, et il considérait que la sensibilité climatique était de 0,8 degrés. Donc inférieur.
Donc on va redire, c'est plus petit que la fourchette basse du GIEC, le pouvoir réchauffant d'une grosse émission de gaz à effet de serre.
C'est lui qui le disait.
Aurait été très faible. Voilà. Et il a changé d'avis par la suite.
Alors ça, c'était la saison 1 de Stephen Schneider. Dans la saison 2, effectivement, la température de la Terre, ah ben oui, ça s'est pas orienté vers un petit âge glaciaire comme il l'annonçait. Ça s'est, au contraire, réchauffé. Et donc, il a évidemment changé complètement son fusil d'épaule. Mais enfin, il ne faut pas oublier ce qu'il avait publié à ce moment-là. À l'instar de bien d'autres chercheurs, avant les années 50, personne ne considérait que l'effet de serre, puisqu'on l'appelle
comme
ça...
Avant les années 80, tu veux dire ?
Non, avant les années 50, l'effet de serre du gaz carbonique était un problème. Quand on reprend la littérature de cette période-là, comme l'avait dit Ångström en 1900, il l'avait publié Ångström en 1900, l'effet était saturé. Et quand c'est saturé, évidemment, ce n'est pas un problème.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus moyen, on peut en émettre encore autant qu'on veut, il n'y a plus de chaleur à réémettre. En tout cas, c'est bon, c'est un avis. Alors, je voudrais revenir sur cette baisse au fil des années de publication de la sensibilité climatique, parce que ça dit quelque chose d'intéressant sur la façon dont la science se passe. Et ce n'est pas le seul exemple qu'on a dans l'histoire des sciences. Comment se fait-il que des scientifiques qu'on va évidemment supposer honnêtes, intéressés et qui veulent comprendre comment les choses se passent sans idées préconçues, peuvent finalement se trouver embarqués dans une tendance à la diminution progressive de la sensibilité climatique. On a au départ une vision assez catastrophique des choses, c'est-à-dire qu'on prête au gaz carbonique un pouvoir réchauffant.
Politiques prêtent.
Alors, pas seulement, parce qu'effectivement, il faut convenir quand même qu'il y a des scientifiques qui défendent cette idée-là encore aujourd'hui. Et petit à petit, finalement, devant les excès manifestes de cette théorie, on corrige petit à petit, mais on le fait doucement. Et parce qu'il est difficile dans un premier temps de dire ah ben non, c'est complètement trompé, on va juste baisser un petit peu, et puis comme quelqu'un a un petit peu baissé, ben on va un petit peu baisser par rapport à lui pour en quelque sorte atténuer l'effet des corrections successives. Ça passe mieux, disons, la pilule passe mieux si on la fait passer progressivement par des publications successives, mais s'il n'y a pas d'intention générale, il y a des phénomènes, disons, de sociologie des sciences qu'on avait observé, je crois, aussi quand on avait mesuré la charge de l'électron, je crois que c'était la charge de l'électron, ou la première fois que ça a été mesuré, donc la charge électrique. L'électron, c'est une particule élémentaire qui est au fondement qui est un des constituants de l'atome et qui est chargé électriquement. Les électrons, c'est 1,6 10^-19, voilà. Mais la question s'est posée de la charge de l'électron, qui est une constante physique fondamentale au même titre que la vitesse de la lumière et quelques autres constantes physiques fondamentales. Quelle est la charge de l'électron ? Et au départ, je crois, le premier à la mesurer, c'est Millikan, qui était une sorte qui était une sommité de la physique et qui s'est complètement gouré dans son truc. Alors, vous vérifiez les détails, mais je crois que c'est lui. Et les physiciens suivants ont refait les mesures, évidemment, parce qu'une expérience, ça se fait plusieurs fois. Et petit à petit, ont corrigé et se sont rendus compte que... Mais ne voulaient pas trop s'en prendre à la sommité qu'était Millikan. Et donc, n'ont corrigé que petit à petit. Et on a le même phénomène à l'époque de diminution progressive, je crois que c'est une diminution, il l'avait surestimé, de diminution progressive de l'évaluation de la charge de l'électron, un peu comme probablement aujourd'hui la sensibilité climatique, où on a commencé à donner une valeur beaucoup plus, trop grande, et où Alors, ce n'est pas forcément un mandarin qu'on n'a pas envie de froisser, mais c'est plutôt une représentation du monde, une angoisse générale, une façon de voir les choses qu'on n'a pas trop envie de remettre en question d'un coup, et donc qui va diminuer petit à petit, qu'on va corriger, et faisant quand même perdre un certain temps à la science. Parce que...
Non, je pense simplement, comme tu le disais tout à l'heure, la plupart des scientifiques sont honnêtes et ils regardent les observations. Et que disent les observations ? C'est qu'effectivement, il y a eu, si on reprend depuis le début du XXe siècle, il y a eu une phase froide. Ensuite, la température a remonté de 0,6 degrés jusqu'en 1945. Et là, à ce moment-là, on n'en voyait pas beaucoup de CO2 dans l'air. Hein. Mais la température a monté de 0,6 degrés. Ensuite, la température a baissé, comme le soulignait Schneider. Ensuite, la température est remontée de 0,6 degrés. La même valeur qu'au tout début de ce siècle. Alors qu'il y avait beaucoup moins de CO2, qu'on en envoyait beaucoup moins dans l'air. Donc pourquoi attribuer au CO2 la deuxième fois et pas la première ? Puisque c'est la même amplitude sur le même temps.
Oui.
Et depuis ? Depuis, mis à part des fluctuations de température qui sont de la météo, El Niño par exemple, on en a eu une belle là, les deux dernières années, ce qui a bien été voilà, utile à certains.
On y reviendra dans un instant. Voilà. Oui.
Donc mis à part ça... la valeur ne montre plus, on a plutôt l'impression de passer par un plateau. Et c'est encore pire si on va monter dans la basse stratosphère. Donc, au-dessus de la Terre, il y a la troposphère, jusqu'à peu près 11 km d'altitude. Il y a un niveau qu'on appelle la tropopause, c'est la limite, la frontière entre les deux. Au-dessus, il y a la stratosphère. Quand on va mesurer la température dans la basse stratosphère, vers 17 km d'altitude, c'est là que le modèle de Sukuryu-Manabe dont on parlait tout à l'heure,
celui de la gare du Nord,
voilà, devrait vraiment se manifester et dire c'est là qu'on doit avoir un écart de température vraiment très visible, puisqu'on n'en a pas vraiment dans l'air que nous respirons à notre altitude, à l'altitude du niveau de notre nez.
Oui, la théorie de Manabe voilà. Prévoit qu'à 17 km d'altitude, c'est là qu'on devrait avoir la marque. Voilà. La plus claire de l'influence des émissions de gaz carbonique sur le climat terrestre, enfin sur les climats terrestres.
Alors là, il n'a pas de chance. Parce que depuis 1993, quand on reporte la température à cette altitude-là, mesurée par différents satellites, hein, ce n'est pas une seule mesure, hein, c'est plusieurs mesures, la température n'a pas bougé depuis 1993.
Elle aurait dû faire quoi ? Elle aurait dû monter, descendre ?
Elle aurait dû, selon les théories, bouger d'environ 2 degrés.
En plus ?
Non, c'est en moins.
En moins, oui.
C'est en moins, cette altitude-là. Mais
on ne va pas détailler le mécanisme, oui, oui. Mais il se trouve qu'un réchauffement climatique
La signature à cette altitude-là, on ne l'a pas. Et pour moi, ce n'est pas une surprise. Parce que quand je vais voir le spectre infrarouge de ces fameuses bandes de CO2...
Donc on rappelle que tu es spécialiste de spectroscopie infrarouge, comme tu vois.
Eh bien... Si on se place en dessous de 11 km d'altitude, évidemment, le CO2 est complètement saturé, mais ça, tout le monde est pratiquement d'accord avec ça. Mais au-dessus de 11 km d'altitude, il est tout autant saturé, alors que la vapeur d'eau, elle, absorbe beaucoup moins, parce qu'elle se raréfie. Mais le CO2, il a tel pouvoir d'absorption qu'il est continue à absorber 100% au-dessus de 11 km. Donc pour moi, c'est clair qu'il y a un effet qui est très proche de la saturation.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce que tu dis là, ça peut étonner les auditeurs, et ça m'étonne moi aussi qui ne suis pas spécialiste de spectroscopie infrarouge, même si j'ai regardé un petit peu de loin ce type de sujet. On a l'impression que c'est quelque chose qui devrait être, enfin, qui est assez bien connu, que c'est un domaine scientifique, disons, on connaît quand même, voilà, la spectroscopie, ça ne date pas d'hier. Le gaz carbonique, c'est quand même une molécule qu'on connaît depuis un bon siècle. Comment se fait-il que ce genre d'argument ne porte pas, et soit en quelque sorte ignoré. Tu as été rapporteur du dernier rapport du GIEC et les objections que tu as avancées n'ont pas été prises en compte.
Non.
Comment concilier ça avec l'hypothèse qu'on va garder jusqu'à la fin de cette émission, que les scientifiques sont honnêtes, qu'ils ont envie de comprendre, qu'ils sont compétents. Comment accorder les deux choses ?
Comme tu le disais très justement tout à l'heure, ils sont en train de revoir leur point de vue, puisque... En moyenne, les valeurs de sensibilité climatique publiées baissent. Parce que justement, ils constatent que tant dans la troposphère, donc à notre altitude, à nous, que dans la stratosphère à 17 km d'altitude, la température ne bouge pas. Ils vont regarder tout ça, bien sûr. ils s'en rendent compte. Ils se disent peut-être que nos modèles, on a peut-être un peu trop tourné le bouton pour les faire chauffer.
Mais finalement, est-ce que c'est pas un peu étonnant qu'ils ne s'en rendent compte que maintenant, si la théorie existait déjà avant et qu'ils auraient normalement pu se douter que ça n'allait pas se passer?
Moi, je ne leur jetterai pas la pierre parce que le climat, c'est quand même très compliqué. Là, on évoque que quelques aspects du climat, mais c'est vraiment très compliqué. Et en plus, c'est un système qui est intrinsèquement chaotique. On prend souvent l'exemple du battement d'une aile de papillon qui va changer la météo à l'autre bout du monde. Et ça, c'est vrai. Toutes les simulations qui ont été faites montrent à quel point le climat est chaotique. Donc, moi, je ne leur jette pas la pierre parce que vraiment, il y a énormément de choses. Et puis, bah, objectivement, c'est tout simple, mais comme entre 1975 et 1998, la température a augmenté et que ça coïncidait avec le moment où on envoyait du CO2, c'était normal de se poser la question et de théoriser là-dessus. C'est comme ça que la science fonctionne, pourquoi pas ? Je ne pense pas qu'il y avait d'arrière-pensée politique
non,
à ce moment-là.
Non, on ne dit pas ça, mais on peut quand même s'étonner s'il y a une théorie derrière qui est bien identifiée, qu'on n'ait pas pensé à l'appliquer plus tôt pour tempérer un petit peu les ardeurs des uns et des autres.
Alors, une chose que je ferai remarquer, dans le dernier rapport du GIEC et dans le précédent R4, ces deux-là, je les ai lus, je les ai épluchés, puisque le premier, c'est lui qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait peut-être quelque chose qui ne collait pas, parce qu'avant, je croyais comme tout le monde. Mais dans le deuxième, alors là, étant expert reviewer, j'ai vraiment insisté et je leur ai dit, mais attendez, il n'y a pas de spectre infrarouge dans le rapport. Le rapport fait 1000 et quelques pages, il n'y a pas un seul spectre infrarouge.
Non, mais quand même. Pour un spécialiste de spectroscopie infrarouge, c'est ce qu'on a vu.
C'est quand même la base du phénomène qu'on voit à la lumière de ce spectre. Pourquoi il n'y en a pas? Enfin, c'est quand même invraisemblable. Donc on a l'impression qu'il y a eu une espèce de tri sélectif. Alors les auteurs du GIEC, bon, c'est un petit peu ce que font tous les scientifiques, mais enfin ils ont tendance à faire passer ce qu'ils ont publié eux-mêmes. Alors s'ils n'ont pas publié là-dessus, ben, s'il n'y avait pas de spécialistes infrarouges parmi ceux qui ont rédigé les différents chapitres, ben voilà, ça y est pas.
Et alors justement, ils en ont eu un au moins avec toi comme expert reviewer. Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu leur as soumis tes objections? Quelles ont été leurs réponses?
Les réponses étaient... Bon, c'était en anglais. Donc je vais pas
mais
faire
bon, en traduction, enfin, dans l'esprit, c'était quoi?
No action, no action, no action, no action, à mes différentes remarques. No action.
Donc, fin de non-recevoir,
voilà.
Pour tout.
On n'en tient pas compte.
Mais mais avec des arguments avec des...
Non, mais non, justement, moi j'aurais aimé des arguments. Mm-hmm. Pas d'arguments. No action, no action, no action.
Alors, ils sont tout de même tenus, en principe, de répondre aux objections
qu'ils
ont faites.
Oui, mais c'est ce qu'ils ont répondu.
Mais ce n'est pas vraiment une réponse.
Ah non, ce n'est pas une réponse, j'en ai bien d'accord. C'est comme ça. Ah,
est-ce que tu as insisté comment est-ce que tu as essayé faire en sorte que ces idées...
Tu ne peux pas insister. Je veux dire, tu reçois un premier brouillon. Tu fais un certain nombre de remarques.
Donc c'est le brouillon des rapports du GIEC. Hein, le premier brouillon, ouais. Deuxième brouillon, brouillon final et voilà. Ensuite le rapport. Hein.
Donc, le premier brouillon, tu fais des remarques. Tu regardes dans le deuxième s'ils en ont tenu compte. Ils n'en ont pas tenu compte.
Bah, s'ils ont dit no action dans le premier, tu dois te douter qu'il ne sera pas dans le second.
Non, ils ne publient que les réponses finales.
Ah, d'accord.
On peut les consulter, hein, tout ça c'est public. Hein. On peut les consulter, mais on a les réponses qu'à la fin. Donc... On ne peut plus rien faire, de toute façon.
Alors, tu as des collègues qui sont spécialistes aussi de ce genre de questions. Est-ce que tu as essayé de les mobiliser? Que eux, qu'est-ce qu'ils pensent de la question?
Dans le contexte de maccartisme climatique que nous connaissons, c'est pas facile. Il y a manifestement un certain nombre de collègues, comme tu dis, qui sont... concernés, éco-conscients qu'il faut faire, ils ne connaissent pas le sujet, du moins sous cet aspect-là, mais ils sont quand même convaincus.
Oui, je parlais plus spécifiquement des spécialistes en spectroscopie infrarouge, ceux que tu côtoies toi en tant que chercheur, à qui tu as dû avoir l'occasion de parler.
Oh ben, on en discute très tranquillement.
Et qu'est-ce qu'ils disent? Au moins à l'heure du café, qu'est-ce qu'ils t'en disent, même s'ils n'ont pas forcément envie de prendre la parole?
C'est tellement évident que, si tu veux, il n'y a pas d'objection. Enfin... Je veux dire, mon propos montrant que c'est complètement, ça absorbe 100%, donc c'est complètement saturé.
Alors, est-ce que tu as des soutiens des collègues, encore une fois, de ton domaine?
Mais ils ne sont pas concernés par cet aspect-là. Ils ont chacun des journées qui sont de 25 heures, tu dois connaître ça aussi. Donc, bon, il m'écoute gentiment, mais ne voit pas comment il se lancerait dans quelque chose de compliqué, alors qu'ils ont du boulot déjà par-dessus la tête. Hein. Parce que c'est comme ça que ça marche.
Tu penses que c'est aussi simple que ça que...
Ah, je crains que ça soit aussi simple que ça, oui. Ben oui, et moi-même, je veux dire, pourquoi je m'y suis intéressé ? Tout à fait par hasard. J'écrivais un bouquin sur la science des matériaux. Et j'avais prévu d'illustrer l'interaction entre la lumière et la matière à partir de l'effet de serre. Ça me semblait une bonne illustration.
Donc à l'époque, tu étais complètement dans le mainstream du GIEC et tu ne te posais pas le...
Et c'est en écrivant ce chapitre que je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne colle pas là. Mais si je n'avais pas eu l'envie d'écrire ce chapitre, ben, je serais probablement, comme mes collègues maintenant, loin de la question. Parce que, bon, c'est quand même là maintenant, de ma part, c'est un investissement scientifique de 9 ans. Ça ne se fait pas comme ça. En général, on travaille à l'université sur des projets de 2 ans, 3 ans. Une thèse, c'est 3 ans. Bon, voilà. Mais là, c'est quand même 9 ans d'investissement. Hein. Ça va bien que je suis émérite maintenant, que j'ai du temps et que je peux consacrer du temps à ça.
Est-ce que tu as des collègues qui te regardent gentiment, genre « Oui, François Gervais, il a un peu, il est passé du côté obscur de la force » ou
Non, je n'ai pas ressenti ça.
Non,
non. Mm-hmm.
Et alors du coup, ils se sentent comment par rapport à... Est-ce qu'ils ont l'impression finalement que tu es le seul à avoir le courage de faire quelque chose? Est-ce qu'ils se posent des questions?
Non, mais il est évident en revanche que les collègues d'autres laboratoires, eux, n'ont pas hésité à lancer une charge ad hominem contre moi.
Et pour quelle raison?
Ils ont un poulet doré... lucratif, je crains, ce qui est humain, après tout.
Donc, qu'est-ce qu'on te reproche si, quels sont les reproches qui sont adressés?
Si ce que j'ai écrit n'était pas dérangeant, pourquoi se serait-il fondu d'une charge pareille?
On peut dire aussi, bon...
Je pouvais simplement ignorer, tout simplement.
Des fois...
J'ai jamais obligé personne à lire ce que j'écris. Franchement.
Non. Mais on entend quand même souvent le discours que les climato-sceptiques, non seulement ils n'ont rien compris, mais en plus c'est des méchants, ils sont financés par les lobbies, ils empêchent l'action sauveuse de planète dont on n'aura pas les oreilles. Et donc il y a ça aussi. Mais venant de collègues universitaires qui en principe savent ce que c'est que la science, savent qu'on a le droit de douter, qu'on a le droit de poser des questions et tout, on peut quand même en principe au moins pas trop haut, te reprocher de pas être dans le courant idéologique dominant. Et on a dû te faire des reproches plus ciblés.
Je dirais pas les choses comme ça. J'en suis à ma 50e année de recherche depuis le moment où j'ai commencé ma thèse de 3e cycle. 50 ans de recherche. J'ai vu passer des financements de recherche extrêmement différents au fil du temps. Et bien évidemment, comme toujours en science, j'ai vécu un certain nombre de controverses. C'est normal. Qualifier de sceptique un scientifique, c'est aberrant. Un scientifique est intrinsèquement sceptique. Je dirais que c'est de la déformation professionnelle. Il est forcément sceptique. Bien sûr. Donc c'est absurde de nous traiter de sceptiques, déjà. Nous sommes simplement des scientifiques. Un scientifique est par essence même sceptique.
Prudent.
Non, mais franchement, sceptique. Je veux dire, si tu lis un article comme tu lis un article du Monde, ça colle pas. Un article scientifique, tu vas pas le lire comme un article du Monde.
Je lis pas trop les articles du Monde, parce que...
C'est une... Bref.
Ne mélangeons pas tout.
Non, je retire.
Surtout les pages planètes de certains journalistes que nous connaissons.
Quand on lit un article scientifique, bah d'abord, un certain nombre, avant qu'un article scientifique soit publié, on envoyait un référé. J'ai été référé, bien évidemment.
Donc, c'est un relecteur spécialisé. Qui
anonyme.
Va... Anonyme.
Anonyme, c'est important. Mm-hmm. Donc, il peut vraiment écrire ce qu'il pense de l'article, ne connaissant généralement pas ceux qui l'ont écrit. Et c'est fait de façon anonyme. Et il va être sceptique vis-à-vis de ce qui est écrit.
C'est-à-dire qu'il va chercher la petite bête ici et là pour permettre à l'auteur d'améliorer son texte.
Exactement.
Et à la fin, d'avoir un article qui soit de meilleure qualité possible.
Tout article scientifique passe par les fourches codines de ce processus de référé. En général, il y en a deux. Bon, donc, c'est normal. On ne va pas lire le manuscrit comme si c'était un passage de la Bible. Si tant est que, là encore, bon, je ne vais pas me lancer sur un terrain glissant. Donc, une fois, toute la littérature est comme ça. Mais même si elle a été référée, elle n'est pas forcément... Peut-être que les référés n'ont pas vu tout, et on ne va pas lire ça a priori. Alors, il y a plusieurs aspects. Bon, déjà, il y a des données sous forme de résultats. Bon, ça, si la méthode a été bien appliquée, et en général, sur ça, c'est l'aspect du rapport du GIEC qui me convient tout à fait. Il y a plein de mesures qui sont faites par des satellites qui montrent que, ben voilà, à tel endroit, ça se passe comme ça.
Des données climatiques un peu partout, température, pression,
niveau marin. Pour moi, ça, c'est la partie du rapport du GIEC qui est tout à fait intéressante et que j'utilise, bien évidemment, comme tous les scientifiques sur la question. Là où je suis plus réservé, c'est sur la partie modélisation. Parce que je suis désolé, mais les conclusions des modèles repris par le GIEC, parce qu'il y en avait d'autres qui ne l'ont pas repris.
Alors, on peut peut-être revenir sur ce que c'est qu'un modèle, parce qu'on parle beaucoup de... Donc, bon, toi, tu peux en parler ou moi, tu sais aussi bien que moi ce que c'est, mais tu seras peut-être d'accord pour dire que la science aujourd'hui, c'est essentiellement trois éléments... constitutif. D'une part, les observations, tu en parlais. Ensuite, on connaît bien les théories, hein, c'est-à-dire bien les concepts desquels découlent, enfin les concepts, les lois générales qu'on peut appliquer dans différentes situations. Et puis, parfois, et comme c'est dans le cas du climat aujourd'hui, où on n'a pas de théorie générale du climat,
il n'y a pas une équation du climat.
On a des modèles, c'est-à-dire eh bien, on bricole en utilisant effectivement les lois de la physique qu'on connaît, donc la conservation de l'énergie, conservation de la matière, l'équation de la chaleur, comme on peut, pour faire semblant qu'on peut représenter la Terre et les évolutions climatiques, donc les transmissions de chaleur, les transports plus exactement de chaleur, et ainsi de suite. Mais c'est, en quelque sorte, c'est le cran en dessous. C'est un petit peu comme, pour prendre une comparaison peut-être un petit peu osée, c'est un peu ce que serait le jeu vidéo par rapport à la vie réelle. C'est-à-dire, on va dire, ben, on va représenter telle et telle situation de façon un peu brutale en donnant des étapes successives, mais sans que ces idées-là et que ces étapes successives soient fondées sur des lois, mais juste sur une idée générale, un schéma qui a l'air à peu près cohérent et en tout cas un schéma qu'on est capable de mettre dans un ordinateur.
Mais avec des incertitudes considérables. Mais,
du coup, non seulement avec des incertitudes qui sont dues au fait que les capacités de calcul sont limitées et au fait que derrière, il n'y a pas ou pas encore les concepts dont on aurait besoin pour vraiment garantir la validité des modèles.
Par exemple, si ce qu'on appelle l'effet de serre du CO2 tel que c'est présenté dans les différentes contributions rapporteriez par le GIEC, cet effet de serre du CO2 a une amplitude similaire à l'effet éventuellement refroidissant des nuages. Si on changeait la couverture nuageuse de la Terre de seulement 2%, ça donnerait un effet... Alors, ça dépend dans quel sens. Mm-hmm. Ça dépend dans quel sens, si on l'augmente ou si on la diminue, mais c'est du même ordre de grandeur que ce qu'on attribue, enfin ce que le GIEC attribue à l'effet de serre du gaz carbonique. Oui. Donc 2% de changement de couverture des nuages.
C'est pas grand chose. On est très loin d'avoir une idée de la couverture nuageuse des siècles passés. Puisqu'on a
et là-dessus, les modèles tournent les boutons un peu...
Donc c'est un aspect important des modèles, c'est que comme on ne connaît pas tout, les modèles vont en quelque sorte simuler une description des choses. Et pour adapter la simulation à ce qui est observé, on va jouer sur un certain nombre de paramètres.
Mais c'est surtout que les modèles ne sont pas d'accord entre eux. Parce que même quand on reprend tous les modèles du GIEC, tous ceux qui ont été...
Alors il y en a une centaine.
Qui ont été retenus par le GIEC, on a des différences considérables de la prédiction de température. Et là, on n'est pas dans un facteur de 1,5 à 4,5. On est dans beaucoup plus. Beaucoup plus. Le modèle russe donne le moins, et puis un certain nombre de modèles, dont celui du CEA, qui donne beaucoup plus.
Donc le CEA, c'est un des modèles français, il y a l'UPSL qui en donne aussi.
Non, je veux dire, ils ne sont pas du tout d'accord entre eux.
Pour un même scénario, c'est-à-dire pour le même type d'émission, les scénarios
sur les mêmes bases, ils n'arrivent pas du tout au même résultat.
Et
c'est dans un rapport que montre l'évolution de la sensibilité climatique, finalement, qui va montrer la même chose. C'est dans un rapport qui est de l'ordre de 1 à 10. Hein.
Donc, ça tient simplement à des choix différents dans les paramètres, qui fait que on va interpréter les choses différemment.
Je vais mettre un peu plus de nuages, un peu moins de nuages, un peu plus de ceci, un peu moins de cela. Ben oui, c'est ça.
Et comment se fait-il que, c'est souvent un peu la même question, c'est comment se fait-il que devant un tel désaccord, même entre les modèles, disons, reconnus, estampillés, qui ont l'imprimatur du GIEC, devant une telle divergence dans les prédictions, dans les prévisions, il n'y a personne, disons, au moins dans le GIEC, pour dire, attendez, si même les modèles, même nos modèles de gens qui sont d'accord avec nous, ne sont pas d'accord entre eux, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on n'a pas encore tout compris.
Ils ont résolu le problème en prenant la moyenne, ce qui est absurde. Parce que s'il y a un modèle qui dit « ça va chauffer 10 fois plus que ce que dit l'autre », vraisemblablement, ils sont peut-être tous les deux faux, mais il y en a au moins un des deux qui est faux. Et donc prendre la valeur moyenne de modèles faux, c'est absurde. Enfin, en tant que scientifique, je ne peux pas souscrire à ça.
Mais on a beaucoup cette idée, et c'est un des éléments de l'affaire, c'est que la moyenne est une sorte de procédé magique qui permet de résoudre les incertitudes et les hésitations, la complexité. On parle de la moyenne, enfin la température moyenne de la Terre, qui ne veut pas dire grand-chose vu les écarts énormes entre et les incertitudes dans les mesures. Mmh. Et c'est aussi un aspect. Alors là, c'est plutôt le mathématicien qui parle, parce que je suis mathématicien. C'est cette référence, cette idée selon laquelle, on raconte d'un tas d'âneries, d'un tas de choses, on s'en sert, mais si on fait une moyenne. On devrait, la lumière devrait émerger de la moyenne. C'est vrai aussi bien pour les températures que pour les prévisions des modèles. Et en l'occurrence, quand on regarde les prévisions des modèles qu'on commence à pouvoir confronter aux résultats des observations, on constate que non seulement ils ne sont pas d'accord entre eux, mais il y en a très peu qui sont dans les clous, parce que la très grande majorité, je crois que c'est de l'ordre de 95%, donc il y a une centaine de courbes données dans les modèles par le jour, 113 si je me souviens bien, et il y en a peut-être 6 ou 7 qui ne réchauffent pas trop. Tous les autres réchauffent trop. C'est même assez frappant que dans le dernier rapport du GIEC, il y avait une figure qui était, je crois, dans le deuxième brouillon, qui montrait ça très bien. On voyait les courbes de température pronostiquées par les modèles qui montaient jusqu'à des altitudes vertigineuses et les observations qui, elles, en gros, étaient à peu près horizontales et qui montraient clairement qu'il y avait un biais dans la constitution des modèles et dans le choix des paramètres. On chauffe trop, tout simplement, dans les modèles.
Le GIEC le reconnaît, puisque dans son rapport AR4, la température maximale possible, c'était 6,4 degrés. Et dans le rapport R5, c'est descendu à 4,8. Donc si on extrapole dans quelques temps, c'est comme la sensibilité climatique, ça redescend.
On va redescendre.
Alors cela dit, j'ai aussi regardé quel est l'endroit de la Terre où il y a le plus gros écart de température entre le plus froid de l'hiver et le plus chaud de l'été. C'est en Sibérie. Le record, c'est 104 degrés d'écart entre le plus froid de l'hiver et le plus chaud de l'été. Et des gens vivent là. Alors quand on nous parle de... Là, nous, on parle de 0,2 degrés, 0,4 degrés. Le GIEC, enfin les politiques disent 2 degrés. Mais bon, faut quand même ramener ça aux observations sur la Terre.
Est-ce que tu as une... Il y aura sans doute, dans quelques années, je sais pas si on n'a pas encore beaucoup entendu parler de ça, mais il y aura sans doute un AR6, donc un Assessment Report 6, le sixième rapport du GIEC.
C'est prévu pour 2021 et 2022.
Oui. Alors il y aura un autre rapport avant qui a été
décidé.
Sur
les océans, il y en a un qui est prévu sur les océans.
Un autre rapport sur si on dépasse les 1,5 degrés d'augmentation de la température. Aussi, est-ce que ce sera l'apocalypse ou est-ce qu'il faut attendre 2 degrés pour que ce soit l'apocalypse? Est-ce que ça va continuer longtemps? Et toi, tu disais, ça fait 50 ans que tu fais de la recherche, tu en as vu d'autres, en gros, c'est un peu ce que tu nous as dit. Comment est-ce que tu regardes ça par rapport à d'autres controverses que tu as vues? Là, on a quand même affaire à une controverse qui a une ampleur assez unique dans l'histoire des sciences. Est-ce que tu vois des signes d'apaisement, disons, et de retour progressif à la raison, ou est-ce que finalement la machine continue à s'entretenir? Je parle plus, pas tellement au niveau médiatique, etc., mais plus en tant que chercheur, toi, dans ta pratique, dans ta rencontre avec tes collègues, de ta discipline ou d'autres disciplines scientifiques.
Clairement, la baisse de la sensibilité climatique publiée me semble un point crucial. parce qu'il y a encore quelques années, à la suite de la publication du rapport AR4...
Donc AR4, c'est 2007.
Hein, oui. Et Al Gore et le GIEC qui avaient eu le prix Nobel de la paix. Là, il y avait un véritable barrage de la part des éditeurs pour publier des résultats comme celui-là. Et cette baisse que l'on constate montre que les éditeurs, maintenant, les référés, autrement dit, parce que l'éditeur ne fait jamais que publier ce que les référés lui disent, oui, bon, d'accord, c'est bon, on peut publier. Ça veut dire quand même que la communauté scientifique dans son ensemble ne fait plus barrage à certains résultats, mais que de plus en plus, ça passe. Et il y a un peu un effet boule de neige, parce que quand on compare, regarde les publications qu'on va appeler sceptiques, qui rapportent des valeurs comme celle-là.
Donc des faibles valeurs de société
faibles valeurs,
par exemple.
Hein. Qu'on va appeler sceptiques, ou celles qui insistent sur la variabilité naturelle du climat, voire celles qui discutent de manière très critique ce qu'on appelle l'effet de serre et toutes les conséquences. Ce nombre de publications, si on le reprend depuis un an et demi, et qu'on le compare tout simplement dans le Web of Science qui regroupe toutes les publications scientifiques, j'ai croisé trois mots-clés qui donnent réchauffement climatique anthropique.
En anglais, bien sûr.
En anglais, bien sûr. AGW, Anthropic Global Warming. J'ai comparé les deux. Eh bien, depuis un an et demi, il y en a trois fois plus qui sont sceptiques que celles qui discutent ce fameux RCA, réchauffement climatique anthropique. Là, il y a, me semble-t-il, on va vers un changement de paradigme chez les scientifiques, en constatant simplement ce qui est publié. Alors, je suis d'accord que les chiffres, le nombre de publications, il ne faut pas se fier qu'à cela. Car à la limite, s'il y avait une bonne publication qui emportait l'adhésion, eh ben voilà, c'est fini le travail. Si tout le monde est convaincu que, ah ben oui. Bon, on n'en est pas encore de là, parce que quand même, je le répète, le climat c'est compliqué. Et qu'il y a toujours moyen de trouver un argument pour... discuter, c'est un peu comme dans un autre domaine que celui des supraconducteurs à haute température critique sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi. Bon, là, ben, y a pas de consensus encore. Ça discute encore beaucoup. Et c'est normal en science. C'est normal. Alors sur le climat qui est encore plus compliqué, c'est normal.
Mais donc, toi de ton côté, tu vois un mouvement qui reste évidemment souterrain parce que ça n'atteint pas la sphère médiatique, la sphère politique, la sphère militante. Ouais. Mais du point de vue de la science, la bascule, soit c'est déjà produite, soit est en train de se produire. Mais, et on ne reviendra probablement pas en arrière.
C'est normal que ça n'atteigne pas la sphère médiatique. Les médias sont intéressés aux lanceurs d'alerte. Et là, cette tendance à la baisse, c'est le contraire de lancer une alerte. C'est au contraire le fait de dire « Bon, bah, finalement, il n'y avait peut-être pas de quoi fouetter un chat. » Mais ça n'intéresse pas les médias. Ils ne s'intéressent qu'aux lanceurs d'alerte. C'est leur boulot. C'est ça qui donne du grain à moudre. Chacun son métier.
Oui, pardon. Ça va être l'heure, me dit-on. Donc bien écoute, François, merci beaucoup. Merci d'être venu spécialement de Tours pour nous parler de tout ça. On en a appris beaucoup. Il y a des moments un peu technique, mais je crois qu'était utile pour montrer que, eh bien, on peut aller dans les détails et être climato-sceptique ou climato-réaliste. C'est pas juste contredire Al Gore ou contredire Nicolas Hulot, mais
il y a pas de malice, non.
C'est aussi aller dans les détails scientifiques et montrer la controverse et montrer que, eh bien, il y a des questions qui se posent et on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de se poser des questions, y compris des questions assez pointues. Merci encore à toi.
Merci de l'invitation, merci à la technique.
Et puis, eh bien, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission très prochainement. Merci à tous et bonne soirée.
Climat, l'échauffement des esprits, Benoît Rétaux.